Donc c'est notre dernière et quatrième table ronde qui s'intitule « Robots et réalité virtuelle dans la clinique de la personne âgée ». Donc, je vais me présenter très très rapidement. Donc, je me nomme Cécile Delou-Brandin, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Caen, membre du CEREV et membre de l'IERHR, et je suis aussi la co-organisatrice de ce colloque. Donc on va parler d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement la robotique et dans la clinique de la personne âgée. Donc actuellement, l'allongement de l'espérance de vie, l'augmentation de la population âgée de 80 ans et plus, fait naître des besoins auxquels il va falloir répondre. Donc la volonté de certaines personnes âgées de vouloir rester à domicile le plus longtemps possible, le désir des aidants de prendre soin de leurs parents, de leurs conjoints, la nécessité des collectivités locales de s'occuper de plus en plus de personnes âgées avec des budgets contraints, la demande des institutions gériatriques pour des solutions réduisant la difficulté des tâches de leurs salariés, etc., etc., sont autant, et je mets des guillemets, d'opportunités de développement pour les gérants technologiques. Alors, on en parle depuis ce matin, mais les gérants technologiques, ce sont tous les systèmes techniques et solutions d'aide, notamment à la personne âgée. Ça peut être des capteurs de chute, ça peut être des robots, ça peut être la réalité virtuelle. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé préconise la diminution d'usage de thérapies médicamenteuses au profit d'autres types de thérapies, favorisant ainsi l'arrivée de nouvelles technologies. Alors, ainsi, ces solutions technologiques qu'on vient d'aborder depuis ce matin, robots, réalité virtuelle, objets connectés, on n'en a pas assez parlé, je pense, aujourd'hui, mais il y a aussi les objets connectés, sembleraient être une, là, ou des solutions aux diverses problématiques sociétales que rencontre la gériatrie en France. Mais on peut s'interroger. Et donc, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce que les robots, est-ce que la réalité virtuelle sont une, des ou la solution? Qu'apportent-ils réellement et concrètement? Qu'attendent les personnes âgées aussi de ces objets, ces nouveaux objets technologiques? Sont-ils prêts à vivre avec eux, à cohabiter avec eux? Et le personnel soignant dans tout ça? Et les familles? Qu'en est-il? Comment les perçoivent-ils? Donc, j'ai plein d'autres questions. Je vous dis, c'est aussi mon sujet de recherche, mais je vais m'arrêter là parce que on va voir si les trois intervenantes vont essayer d'y répondre. Donc, nous avions 5 intervenants. Voilà, il y a eu quelques problèmes, voilà, des contraintes professionnelles. Donc, dans un premier temps, nous allons accueillir Marie-Belle Pinault. Donc, tu travaillais avec Anne-Sophie Rigaud et qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons professionnelle. Tu nous parleras de réalité virtuelle et personnes âgées. Ensuite, on aura l'intervention de Sylvie Willems, qui nous parlera aussi d'études sur l'évolution des pratiques, sur l'intérêt de la réalité virtuelle en neuropsychologie, donc le cas évidemment du vieillissement. Et on terminera par la recherche de Marie-Lyne Carion-Martineau et Nicolas Baltenay, qui n'a pas vu aussi venir pour des raisons professionnelles. Et donc, tu nous parleras de l'étude sur l'évolution des pratiques et des compétences des personnels soignants dans les EHPAD, avec un robot compagnon que je connais très bien. Donc je laisse la parole à Marie-Belle et ensuite on passera au tour de Sylvie.
Bonjour, merci Cécile pour cette introduction et à tous les organisateurs, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je travaille avec les professeurs Anne-Sophie Rigaud et je dirige la partie Living Lab de l'hôpital Broca, qui est un hôpital gériatrique, un hôpital public de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et nous avons comme mission de participer au développement et à l'évaluation et à la réflexion autour de l'utilisation des solutions technologiques et de façon plus large des médiations psychosociales et d'intervention psychosociale à la médiation technologique et destinée à un public de personnes âgées. Et particulièrement, nous sommes spécialisés dans le public atteint de troubles cognitifs du type maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, puisque l'hôpital Broca a une consultation de mémoire, donc c'est un centre de ressources experts en maladie d'Alzheimer. Et donc, Living Lab regroupe 3 équipes. D'un côté, il y a la partie recherche. Donc, nous avons une affiliation à l'Université Paris-Descartes, une équipe d'accueil spécialisée en maladie d'Alzheimer. Et en deuxième lieu, donc, il y a une association qui s'appelle les Centres Experts Nationaux en Stimulation Cognitive. C'est une association créée à l'initiative de la CNSA qui s'intéresse à l'utilisation de cette technique pour compenser les handicaps cognitifs. Et en troisième lieu, nous travaillons étroitement avec les réseaux des professionnels de l'hôpital Broca et des réseaux connexes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une application particulière de la réalité virtuelle. On sait que depuis des années, la gériatrie, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'études et des interventions qui utilisent ce type de techniques. Notamment un domaine qui a été bien étudié, qui est bien développé, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'amélioration de l'équilibre chez la personne âgée. Pour traiter la peur liée à la crainte de chuter pour les personnes qui sont à risque de chuter ou qui ont déjà fait une chute. Donc il y a un autre domaine qui a beaucoup intéressé les chercheurs dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est la sécurité routière, notamment l'utilisation de la réalité virtuelle pour proposer comme un entraînement et pour des seniors à la traversée de la rue et à faire une meilleure prise d'information au niveau de la perception et des décisions au moment de traverser la rue. Dans le domaine de la stimulation cognitive et de la rééducation cognitive aussi, la réalité virtuelle était bien utilisée en gériatrie, notamment pour proposer des tâches qui vont être, comme on l'appelle, écologiques, c'est-à-dire des tâches qui représentent réellement les contextes de vie et de fonctionnement des personnes âgées. Donc là, je vous ai mis une image d'un logiciel qui propose une tâche à faire dans un supermarché. Et puis, plus particulièrement dans les domaines des troubles cognitifs, de la démence, par exemple, récemment, il y a toute une série d'applications en réalité virtuelle qui se développent pour favoriser la réminiscence, mais aussi favoriser les moments de détente et de plaisir chez des personnes qui ont une mobilité réduite et pour lesquelles, via la réalité virtuelle, on peut proposer la visite à certains endroits ou certains environnements, comme on peut imaginer une plage, un musée, et une promenade dans une forêt. Donc, c'est un domaine qui se développe aussi rapidement. Mais le domaine dont je vous parlais particulièrement, et c'est un syndrome particulier, et moins romantique que les promenades en forêt, c'est le syndrome qu'on appelle syndrome de Diogène, ou trouble de l'accumulation compulsive. Donc, globalement, on peut le définir comme une compulsion qui a la personne à accumuler des objets et une grande difficulté à se débarrasser de ces objets, à tel point que les lieux de vie sont complètement envahis, encombrés, et représentant beaucoup de risques pour la personne elle-même et pour l'entourage. Donc, en termes d'accumulation, on rencontre tout type d'objets. Donc, ça peut être des objets utiles ou des objets de déchets. Et on retrouve aussi un cas particulier, que c'est une variation, c'est le syndrome de Noé, c'est l'accumulation d'animaux. Et donc, comme vous pouvez voir dans cette image, donc ça représente un vrai souci en termes de santé publique. Et par exemple, dans les cas d'accumulation d'animaux, il y a beaucoup de sociétés de protection d'animaux qui s'intéressent à comment repérer ces personnes avant que les troubles soient trop avancés et comment les traiter. Donc, il y a deux classifications diagnostiques. Donc, une internationale, les troubles de l'accumulation compulsive avec les DSM-5. Et on recoupe, globalement, on explique les symptômes que je viens de vous expliquer rapidement. Donc, la difficulté à jeter. Cette difficulté est liée à un besoin que la personne ressent, qu'elle doit conserver les objets indépendamment de leur valeur. Et il y a une vraie souffrance à s'en séparer. Donc, ce n'est pas aussi simple de les dire, il faut que tu ranges, il faut que tu jettes. C'est vraiment très compliqué. Et en général, dans ces cas, quand on arrive à un dégagement des lieux d'habitation, c'est uniquement parce qu'il y a une intervention d'un tiers. Donc, ce tiers peut être la famille, mais c'est souvent des agents d'entretien ou des responsables de logement de la ville ou des bailleurs sociaux, par exemple. Cette accumulation compulsive entraîne effectivement une détresse chez la personne et une altération complète de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines. Elle n'est pas imputable à d'autres affections médicales ou elle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental du type dépression, obsessionnelle, compulsive, etc. Donc, il y a une classification française aussi, comme dans plusieurs cas de critères diagnostiques. Donc, cette classification, ces critères sont proposés par Montfort et collaborateurs. Et eux, ils proposent comme critère principal dans le syndrome Diogène l'absence totale de demande d'aide, que ce soit vers des services sanitaires, sociaux, médico-sociaux, accompagnés d'effectivement cette relation pathologique aux objets, mais que selon les critères de Montfort, peuvent être sur les versants accumulateurs, les plus généralement, mais ça peut être aussi un refus total d'objets. Et d'autres critères secondaires qu'ils incluent, c'est la relation aux autres inhabituels, donc des personnes qui en général sont très isolées, mais on trouve aussi les versants contraires, donc des personnes qui vont au contact, vont chercher toujours les contacts des autres. Et en troisième lieu, une relation au corps inhabituel, le plus souvent avec une négligence totale du corps et de l'hygiène. Mais dans l'autre versant aussi, j'ai plus rarement un besoin excessif pour la propreté. Donc nous, nous nous intéressons au syndrome de Diogène depuis déjà 2 ans, parce que c'est un syndrome qui on retrouve souvent chez la personne âgée, c'est-à-dire que la prévalence augmente avec l'âge, et c'est des cas qui sont d'une grande complexité pour les services de santé mentale, mais aussi pour un vieillissement et dans les circuits de personnes âgées, pour les centres de coordination et personnes âgées. Donc on a commencé à réaliser, pour mieux comprendre la situation des acteurs et identifier les rôles des acteurs qui sont concernés par l'identification et l'accompagnement de ces personnes, nous avons commencé à faire des focus group, notamment avec des bailleurs, donc c'est un des acteurs qu'on a interrogé, et quelques verbatim de ce qu'ils nous racontent de leur rencontre avec ces personnes. Donc ils nous disent qu'ils vivent isolés, c'est à la fois du monde extérieur, mais même chez eux. Ils s'isolent encore plus. Souvent, les fenêtres ne sont pas ouvertes ou les volets, parce qu'ils n'y accèdent plus. Mais isolement, c'est-à-dire qu'ils vivent déjà, pas dans le noir, mais un petit peu. Souvent, le réseau familial, amical, il n'y en a pas ou quasiment pas. C'est les gardiens qui sont souvent les lanceurs d'alerte, c'est eux qui ont un rôle principal, qui voient les habitudes des gens. Ces personnes, elles sont abandonnées, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus l'appréhension, enfin la conscience de la mise en danger aussi pour soi. Donc les bailleurs sociaux, pour nous, c'est un acteur très important à rencontrer, parce que le souci actuel, c'est que les personnes qui présentent un syndrome de Diogène, en général, quand elles sont repérées, c'est parce que c'est déjà trop tard. C'est parce que déjà les voisins, ça représente une vraie gêne pour l'entourage. C'est-à-dire que l'appartement, il est très, très sale, il y a beaucoup de nuisibles, et c'est à ce moment-là qu'arrive le signalement. Et quand ces moments arrivent, en général, la personne, elle est bien avancée dans ses problèmes, dans ses difficultés. Et c'est très difficile, parce qu'elles sont dans ces refus de soins, dans ces dénis de la situation, de les orienter vers un parcours. Et normalement, quand les gardiens ou les voisins repèrent la situation, ils vont contacter, notamment dans les logements gérés par des bailleurs sociaux, ce type d'acteurs. Les risques sanitaires sont aussi rapportés. Donc la personne Diogène va mettre en péril la santé d'elle-même, mais aussi les côtés sanitaires du logement. Et c'est avant des risques sanitaires majeurs. Donc les diogènes sales, c'est les poubelles, les mouches, les moucherons, les cafards, les punaises de lit, les excréments, les animaux stockés. Donc c'est tout ce que tout. Et il y a un autre exemple, la personne racontait qu'une des locataires nourrissait les pigeons. Elle voulait que les pigeons viennent, et donc il y avait des pigeons, les bâtiments étaient sales, et elle les mettait à manger chez elle. Donc ils rentraient chez elle et ils mangeaient. Donc c'est un vrai souci de santé publique avec les statistiques. On estime qu'actuellement en France, il y a entre 1 et 3 millions de personnes âgées concernées par ces syndromes. Quelles conséquences donc, sur l'individu de vivre dans ces logements complètement encombrés et insalubres, donc des risques de chute, de nutrition, de non-observance des traitements médicamenteux, des maladies infectieuses à cause de l'insalubrité et des difficultés relationnelles, beaucoup d'isolement, dépression et stress. Sur l'entourage, effectivement, des relations de grands conflits au sein des familles, des pressions de nuisibles, des risques d'incendie, des problèmes légaux, même en arrivée à l'expulsion du domicile. Donc là, une petite graphique pour vous montrer les nombres d'arrêtés préfectoraux liés à solliciter la personne à qu'elle débarrasse et qu'elle nettoie, faite par la police et la préfecture de police d'Île-de-France. Donc on voit une augmentation dans les cas d'arrêtés préfectoraux dans les dernières années. Alors, comment on évalue le syndrome de Diogène? Donc, en premier abord, il y a un constat, mais ce n'est pas les gardiens ni les bailleurs sociaux qui vont pouvoir poser un diagnostic. Donc, quand la personne arrive à rentrer dans un parcours d'accompagnement, donc c'est l'entretien clinique, et il y a certains outils qui permettent d'évaluer particulièrement le syndrome de Diogène. Donc, là, je vous ai mis une image d'un des tests d'encombrement. Et donc, on demande à la personne de situer pour différentes pièces de son logement quel est le niveau d'encombrement qui existe actuellement. Donc, format de prise en charge, il y a, le syndrome est complexe et il y a peu de méthodes qui sont efficaces. Et on trouve qu'il y a une réponse très limitée au traitement proposé, que ce soit pharmacologique ou non pharmacologique. Un frein important dans la démarche thérapeutique, c'est l'anosognosie, donc c'est l'absence de conscience du trouble. Et donc, un taux très élevé de l'abandon quand les personnes commencent à être accompagnées. Donc, c'est une prise en charge complexe qui nécessite une bonne coordination entre le secteur social et médical. Donc là, je vous ai mis un parcours très simplifié pour montrer un peu ce que ça pourrait donner au niveau du signalement. Donc, il y a d'un côté les interventions au niveau logement, par exemple les services techniques du logement, et de l'autre côté la prise en charge thérapeutique. Et donc, les services techniques du logement, s'ils constatent qu'il y a un endogène à Paris, ils vont prévenir les services sociaux de l'arrondissement. Et selon l'âge de la personne va être orientée soit vers une structure de santé mentale du type CMP, soit vers une structure de coordination de personnes âgées. Donc, nous développons actuellement tout un projet autour de cette problématique, avec un côté de conception et développement d'un outil virtuel qui pourrait aider à accompagner ces personnes dans la prise de conscience et dans les traitements. Et en même temps, nous travaillons sur la création d'une campagne de prévention primaire et secondaire au niveau de Paris. Et que c'est un projet qui actuellement nous soutient, pour lequel on a le soutien de la Conférence des financeurs de Paris. Et un autre objectif, c'est de construire un troisième volet qui permettra la validation clinique de cet outil réalité virtuelle que je vais vous présenter. Donc, dans toutes les thérapeutiques testées, et parmi toutes les thérapeutiques testées avec le syndrome de Diogène, une qui présente les possibilités les plus optimistes d'avoir des résultats, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ces formes de thérapie, finalement, proposent des objectifs très réalistes et personnalisés et progressifs. Et dans l'accompagnement et à la personne à la prise de conscience et au débarras et progressif de ce lieu, de son lieu d'habitation. Donc, il y a dans la littérature des exemples des cas plutôt réussis avec des thérapies cognitivo-comportementales faites de façon traditionnelle et qui combinent des séances de TCC, des visites au domicile de la personne et puis aussi un côté psychothérapeutique plus classique pour apporter un soutien émotionnel à la personne. Et une des limites dans ces formes de prise en charge, c'est les visites au domicile, parce que les personnes en général sont très réfractaires de laisser rentrer quelqu'un. Et c'est compliqué aussi pour les thérapeutes de se déplacer chez tous les patients. Et donc, tenant compte de ces difficultés, une équipe canadienne a commencé à travailler il y a environ 7-8 ans sur le développement d'un outil réalité virtuelle non immersif, et dans lequel on proposait l'image d'un appartement encombré et on proposait à la personne de commencer à s'entraîner à débarrasser cet espace non immersif, avec des résultats plutôt positifs. Donc, le docteur Laurence Hugonneau a eu l'idée de poursuivre cette piste de recherche des Canadiens et qu'on propose un environnement immersif et personnalisé pour voir si ça pouvait augmenter les possibilités de succès. Donc, actuellement, nous travaillons sur la conception de l'outil et de la démarche d'accompagnement de la réalité virtuelle, globalement structurée en 4 étapes. Donc d'abord, suite à la rencontre avec les patients, il y a un entretien clinique où on évalue les besoins, l'état de la personne, on évalue ses besoins et ses attentes. Ensuite, on propose la création d'un espace virtuel qui commence par les dessins que la personne fait elle-même de son propre logement, qu'après on modélise en réalité virtuelle. Donc on a créé un outil qui permet de modéliser à partir d'un plan dessiné, un environnement 3D. Ensuite, on procède à encombrer cet espace. Et une fois qu'on fait la familiarisation de la personne avec l'outil et les équipes de réalité virtuelle, la personne commence à débarrasser. Avec l'accompagnement du thérapeute, on propose des tâches de trier, et commencer à jeter. Et donc, il y a un sac poubelle dans lequel la personne peut commencer à tout jeter. Puis après, il y a un entretien de débriefing avec les thérapeutes. Et ainsi, actuellement, nous sommes en train de commencer à tester ces dispositifs pour voir comment on peut l'adapter, combien de séances sont nécessaires, comment on peut évaluer les progrès. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Là, c'était au tout début, on pensait qu'on devait aller très loin dans la personnalisation des espaces. Et il y a une des personnes qui nous a permis de visiter son appartement. Et après, on a modélisé en 3D son appartement. Mais on s'est rendu compte que c'était très coûteux pour nous de développer tous les appartements presque à l'identique. Donc, on a commencé à créer des appartements plus génériques. Et donc, là, c'est l'exemple d'un dessin, la représentation d'un espace virtuel à droite. Ensuite, on définit les zones d'encombrement avec la personne. La personne, donc, commence à dire à un thérapeute, c'est ici où c'est rempli. Donc, on définit les zones d'encombrement. Et puis, on remplit d'objets. Donc, il y a des piles d'objets qui tombent. Et la personne nous indique quand elle reconnaît que c'est comme chez elle. Et pour moi, ça, c'est l'indicateur que c'est bon et qu'on peut démarrer. Après, donc, on fait les tests avec l'outil. Et puis, après, là, c'est l'image en grand de la personne qui commence à jeter les objets dans les sacs poubelles. Donc, actuellement, on a ces protocoles en cours. Moi, je vais vous montrer juste quelques résultats avant de montrer la petite vidéo qui montre mieux les dispositifs. Donc, ça, c'était une des patients. Donc, actuellement, on suit 6 personnes. Et cette personne, elle nous a proposé de nous montrer des photos de chez elle. Et donc, lors de la première séance, donc, c'est l'espace cuisine. Et après, elle nous a montré comment elle avait commencé à ranger. Elle était très fière de pouvoir retrouver et de pouvoir se faire à manger à nouveau, parce que le souci, c'est qu'avant, elle ne pouvait même plus laver ni faire la cuisine. Donc ça, c'était intéressant. Et je vous montre la vidéo, je finis là. Donc, tout ce processus de création se fait vraiment avec la personne et on pense que les relatifs succès qu'on a eu, que les personnes acceptent de continuer à venir, et c'est parce qu'il y a une forme d'empowerment de la faire participer dans la construction et d'appropriation de la prise en charge d'elle-même. Et on pense que ça c'est une piste thérapeutique intéressante. Aussi, dans la réalité virtuelle, on pense que c'est une des hypothèses de pourquoi ça fonctionne. Et là, on voit comment c'est la vue avec les casques. C'est aussi de donner le sentiment de contrôle à la personne, d'elle-même peut faire une action efficace, ce qui peut être plus complexe quand on voit la personne dans un cabinet, qu'on lui propose de faire la tâche au domicile. Là, immédiatement, il y a un effet. Et les personnes nous disent, ah, effectivement, et comme ça pourrait être chez moi, c'est super, donc c'est motivant. Donc actuellement, on est encore en cours de création de ces protocoles. Pour l'instant, l'acceptabilité de l'outil a été bonne, avec quelques limites, parfois dans la difficulté d'utilisation des manettes. Et on a été aussi obligé de limiter beaucoup les déplacements dans l'espace virtuel, parce que pour les personnes, c'était difficile. Elles étaient un peu confuses de devoir marcher dans la vie réelle et se transporter dans les mondes virtuels. Donc, on a créé comme un outil de télétransportation. L'autre difficulté qu'on a rencontrée pour l'utilisation des outils, c'était le fait de devoir se pencher pour ramasser les objets. Donc, on a créé une pince, pour ça qu'il y a une pince. Comme ça, la personne, juste avec la manette, peut faire ses mouvements. Donc, globalement, l'acceptabilité est bonne. Les pistes, pour l'instant, paraissent positives, mais il y a du travail encore pour voir comment ça évolue. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maribel, pour cette présentation extrêmement intéressante. Il y aura des questions, ça, c'est sûr. Sylvie Williams, c'est à votre tour. Donc, on vous écoute. Vous avez 20 minutes.
Donc, je suis Sylvie Williams. Je viens de Belgique aussi, comme Noël. Je coordonne à l'Université de Liège une clinique psychologique et logopédique, donc ça veut dire orthophonique, dans lequel on réalise des consultations psychologiques, neuropsychologiques et orthophoniques. Alors nous, notre intérêt par rapport à la réalité virtuelle est toute récente. Ça fait 2 ans qu'on s'y intéresse à différents égards. pour traiter l'anxiété, pour entraîner des adolescents qui bégayaient, et alors pas encore en neuropsychologie, mais là on est dans les études pilotes préliminaires. Alors, je voulais vous illustrer ici l'intérêt de la réalité virtuelle via la mémoire épisodique. Vous en avez déjà un petit peu entendu beaucoup parler, plutôt par Pascal Pirino, mais comme on est en fin de journée, j'imagine que la répétition fera du bien pour la consolidation de vos souvenirs. Alors, je vais prendre la peine de retracer pendant 5 minutes les défis que nous lance l'évaluation de la mémoire épisodique. Vous en avez déjà entendu parler avec Pascal, mais je vais reprendre quelques éléments qui sont vraiment importants de garder à l'esprit avant de se lancer dans l'aventure de l'évaluation de la mémoire épisodique. Alors, la mémoire épisodique, vous l'avez entendu, c'est la mémoire des événements personnellement vécus. Elle est extrêmement complexe. Elle entretient une relation circulaire avec notre identité. John Locke disait déjà au XVIIe siècle, « Je suis dont je me souviens donc je suis ». On voit bien cette interconnexion. Donc, nos souvenirs, ils vont être déterminés par nos buts, nos valeurs. C'est un fait. Et ces buts et ces valeurs vont également nous permettre de découper le flux continu de la réalité. Ce sont nos objectifs qui vont nous aider, entre autres, à découper, à segmenter ce flux qui est constant et à encoder des épisodes en mémoire. Alors, vous l'avez compris avec Pascal, ce qu'on va encoder en mémoire, ce n'est pas juste des watts. Ce sont une panoplie d'informations, des localisations, des moments, des émotions, des pensées, des détails perceptifs qu'on va associer ensemble par un processus de binding. Et ce processus de binding peut être affecté et se détériorer avec le vieillissement, justement. Alors, plus on aura d'informations associées dans nos souvenirs, plus on aura un sentiment de souvenir vivace. Alors, vous avez entendu, cette phénoménologie du souvenir, du voyage mental dans le temps, est quelque chose qui est important. C'est un marqueur de la mémoire épisodique et il va dépendre souvent de la quantité de détails qui sont associés à nos souvenirs. Comme on est soumis à un flux constant d'informations tout au long de la journée, on va bien évidemment avoir une grande quantité de souvenirs qui peuvent être encodés, mais un certain nombre vont être rapidement effacés parce que, entre autres, ils ne sont pas connectés à notre identité, nos valeurs, nos objectifs. Et c'est donc les souvenirs qui sont les plus importants qui perduront au fil des jours. L'oubli va prendre quelques temps, hein, ça ne va pas se faire dans les minutes, ça va prendre plusieurs jours parfois. Et c'est cette courbe de l'oubli qui va aussi augmenter dans le vieillissement normal et pathologique. Alors communément, on s'est intéressé d'abord à des facteurs proprement liés au vieillissement, des modifications cérébrales de régions qui sont importantes pour le souvenir. Mais on montre de plus en plus qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas propres au vieillissement, qui vont également influencer nos oublis. Des souvenirs, des facteurs psychologiques avec la motivation qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, mais également aux tâches neuropsychologiques, le sentiment d'auto-efficacité qu'on peut avoir, et il y a de plus en plus d'études qui montrent également la menace du stéréotype qui peuvent être particulièrement prégnantes lors d'évaluations neuropsychologiques et face à des tâches de mémoire comme on les utilise actuellement. Et puis il y a des modifications aussi dans les valeurs, dans les objectifs de la personne qui peuvent également impacter le fonctionnement de la mémoire dans la vie quotidienne, mais également à nos tâches. Alors à la question, est-ce que nos outils actuels sont pertinents pour évaluer la mémoire épisodique dans toute sa complexité? Vous aviez déjà la réponse après l'exposé de Pascal, mais je vais revenir quand même sur certains éléments. La mémoire épisodique, on l'a entendu, elle prend du temps à se développer et elle se dégrade facilement dans le vieillissement, mais également avec d'autres pathologies. On la comprend de mieux en mieux et pourtant nos paradigmes ont du mal à changer, en tout cas ceux qu'on utilise dans la pratique clinique. On utilise toujours des listes à apprendre de façon volontaire, des listes de mots, des listes d'images, et puis qu'on va tester détectés de façon à court terme via des tâches de reconnaissance et des rappels, c'est bien entendu tout à fait insatisfaisant. Alors ici, je cite Marcel van der Linden, qui n'a eu de cesse dans les dernières années de souligner l'aspect insatisfaisant et frustrant de nos tâches, qui sont très éloignées de la façon dont la mémoire se forme dans la vie quotidienne. Alors je ne vais pas citer tous les éléments en quoi elles sont frustrantes, mais juste quelques éléments. Ben, on est face à des listes, alors que dans la vie quotidienne, c'est un flux d'informations. On a peu d'informations, alors que dans la vie quotidienne, on est soumis à des informations très riches. On est dans de l'intentionnel et pas dans de la volontaire, alors que nos souvenirs s'encodent de façon automatique. Notre matériel, c'est difficile de le rattacher à notre identité, nos valeurs, nos objectifs, hein, parce qu'il est neutre et pas très amusant. Les scores qu'on va recueillir, ça va être des scores quantitatifs, le nombre de mots, le nombre d'images reconnues, alors que dans la vie quotidienne, c'est l'association, la richesse des souvenirs et l'expérience phénoménologique qui est associé, qui va être vraiment important. Alors, pour cette raison, nos tâches sont insatisfaisantes et prédisent peu les plaintes subjectives et les performances au quotidien de nos patients, ce qui est évidemment fort embêtant. Alors, pour toutes ces raisons, la réalité virtuelle possède de nombreux atouts, je ne vais pas les citer, interactivité, multisensorielle, et donc plusieurs auteurs ont vu l'intérêt de la réalité virtuelle pour évaluer la mémoire épisodique dans toute sa splendeur. Alors, je vais donner juste quelques exemples avec l'équipe ici de Bâle qui a plongé des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes dans une cuisine virtuelle en faisant apparaître différents objets à différentes localisations et ils ont pu montrer de la sorte que les personnes plus âgées en fait avaient plus facile de faire cette tâche que les tâches standards, en tout cas les écarts entre sujets plus âgés et plus jeunes étaient réduits dans cette tâche en réalité virtuelle. Or ici on voit bien qu'on reste encore assez éloigné de la façon dont la mémoire épisodique va fonctionner dans la vie quotidienne. Des objets qui apparaissent dans une cuisine, c'est pas très écologique. Et alors moi je préfère les études justement de Pascal Piolino, qui a été vraiment pionnière dans ce domaine, avec cette ville qui a été modélisée et qui permet de confronter les sujets à des flux d'informations réellement avec cette balade dans la ville dans laquelle il va y avoir différents événements auxquels on va être confronté. Alors il y a eu une panoplie d'études, je ne vais pas tous les citer, juste quelques données qui m'ont marqué. Le fait que oui, il y a un effet de l'âge, mais il ne va pas être sur le souvenir des événements en tant que tel, mais sur la richesse des souvenirs, sur la quantité d'informations qui va être associée. Et ça, on peut bien le montrer grâce à cette réalité virtuelle. Autre donnée que moi j'aime bien, c'est que oui, il y a un effet de l'âge, mais moins en encodage incident, tout comme notre mémoire se forme dans la vie quotidienne. Hein. On n'est pas en encodage volontaire la plupart du temps.
Voici ce que j'ai trouvé.
Alors, mon doudou Google qui s'active. Alors, une dernière étude que je veux citer juste à titre d'illustration de l'équipe de Sylvie Blainville au Canada, qui a ceci d'intéressant d'avoir testé à la fois l'encodage et la récupération se fait dans ce petit magasin virtuel. Et alors ici, ils ont utilisé un casque, un visio-casque, et ils ont montré que c'était assez bien toléré, mais c'est chez des sujets plus âgés, mais qui n'ont pas de troubles neurologiques associés. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire à Liège, c'est s'intéresser à la qualité du souvenir associé à l'expérience virtuelle et comparer cette qualité du souvenir chez des sujets jeunes et des sujets plus âgés. Alors, pourquoi on s'est posé cette question? Eh bien, parce qu'en fait, on est confronté à des données intéressantes de la littérature et en tout cas qui me posaient question. Chez les sujets jeunes, on va trouver une corrélation étroite entre la performance objective, c'est-à-dire la quantité d'informations qui vont être rappelées, et le souvenir qui est associé, la vivacité du souvenir qui est associé. Et chez les personnes plus âgées, cette association, elle devient un petit peu moins évidente. On va trouver des personnes âgées qui, alors qu'ils arrivent à récupérer moins de détails objectifs vont pourtant avoir des sentiments de souvenirs qui parfois sont même supérieurs à ceux observés chez les sujets jeunes. Alors on peut se poser des questions par rapport à ces résultats. C'est est-ce que nos personnes, les personnes plus âgées avec le temps vont effectivement de moins en moins récupérer de détails, mais être en même temps de plus en plus incapables d'évaluer la qualité de leurs souvenirs? Ou est-ce que nos tâches sont insatisfaisantes et ne permettent pas de recueillir l'entièreté des détails qui sont associés dans leurs souvenirs et qui vont déterminer leur sentiment de vivacité? Alors, pour poser cette question, nous avons placé des sujets jeunes et des sujets plus âgés dans un appartement virtuel de Stéphane Bouchard. Ici, nous avons utilisé un visiocasque. Nous n'avons pas mentionné qu'il y aurait une tâche de mémoire par la suite. Et nous avons mis en place un scénario de manière à ce qu'il puisse y avoir une certaine référence à soi. Un scénario qui a du sens. Alors ici, c'est avec des Wallons, donc au sud de la Belgique. Les Wallons adorent passer un week-end à la mer, donc nous leur avons proposé d'imaginer un week-end à la mer avec la personne de leur choix, dans le lieu de leur choix, et en leur demandant d'imaginer d'aller visiter un appartement de location. Après, nous leur avons demandé de faire un saut dans le temps et imaginer qu'ils devaient quitter malheureusement déjà cet appartement et réaliser toute une série de tâches. Ce sont des tâches qui ont été créées avec l'aide de personnes jeunes et plus âgées pour avoir des tâches vraiment pertinentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on quitte un appartement de location? On vide la poubelle, on fait la vaisselle, on plie sa valise, etc. Donc, un certain nombre de tâches pour avoir un scénario standardisé et puis en demandant à la personne de verbaliser tout ce qu'elle ressentait et ce qu'elle pensait. Et puis, deux jours plus tard, 48 heures plus tard, donc on demandait à la personne de refaire mentalement le parcours en verbalisant un maximum de détails. Alors, je vais passer sur cette DIA. On a évidemment utilisé toute une série de tâches standards pour comparer nos performances après l'expérience virtuelle avec les performances obtenues dans des tâches classiques. Alors, en nous inspirant des études de Pascal Piuino, on a découpé les souvenirs rapportés concernant les actions pour avoir toute une série d'informations qui étaient associées aux souvenirs. Alors, premier résultat intéressant, on a pratiquement pas de différence entre personnes jeunes et personnes plus âgées. Les seules différences qu'on obtient concernent des détails perceptifs périphériques. Pour les autres types de détails, l'objet, la localisation, le moment, les détails internes, on obtient la même quantité de détails rappelés chez les plus jeunes et les plus âgés. Deuxième résultat intéressant, quand on regarde ce qui fait qu'un souvenir est vivace chez les personnes les plus jeunes, on va voir que c'est l'objet. L'objet central pour l'action est la localisation de l'objet. Quand on regarde ce qui fait qu'un souvenir est vivace chez les personnes plus âgées, on remarque que ça va être aussi et surtout les détails internes, les émotions, les pensées qui ont été générées pendant l'expérience virtuelle qui vont déterminer le sentiment de vivacité. Globalement, on remarque que les personnes plus âgées, en tout cas dans ce scénario, font plus de références à soi, justement. Autre donnée intéressante, on réplique ce qui a déjà été montré dans plusieurs études. La performance qu'on observe après la réalité virtuelle corrèle beaucoup plus avec le sentiment quant à le fonctionnement de la mémoire dans la vie quotidienne, statistiquement plus qu'avec nos tâches standards, même celles qui se veulent les plus écologiques. Donc là, on a une forte corrélation. On observe également pas plus de cyber-malaise chez nos personnes les plus âgées et le sentiment de présence est même globalement un petit peu meilleur chez les personnes les plus âgées. Alors, autre résultat intéressant, je ne l'ai pas mis ici, la tâche ici génère moins d'anxiété que nos tâches standards. Les personnes âgées ont trouvé la tâche plus ludique et moins stressante que l'évaluation telle qu'on le propose avec nos listes de mots classiquement en neuropsychologie. Alors une dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce que nos résultats sont valides ou est-ce que le fait d'avoir demandé à nos sujets de naviguer activement dans l'appartement pouvait impacter la performance en étant un fardeau cognitif pour la personne ? Effectivement, il y a plusieurs données dans la littérature qui semblent indiquer que la navigation active, elle est intéressante, elle va augmenter la performance amnésique, mais il ne faut pas qu'elle soit trop coûteuse parce que sinon, elle va impacter la performance et on peut retrouver plus d'erreurs de mémoire après une navigation active chez les personnes les plus âgées. Alors nous, on s'est dit, bah, tiens, dans des expériences pilotes, on va essayer de mettre en place des phases de familiarisation pour voir si il y a moyen de totalement familiariser la personne pour qu'elle se sente vraiment à l'aise avec les manettes. Alors on a fait deux études. Des collaborateurs à l'université de Bruxelles ont utilisé la Nunchuk, donc une manette très simple de la Nintendo. Nous, on a utilisé les manettes de l'Oculus. Alors, eux, en non-immersif, ils ont observé que malheureusement, même après 20 minutes de familiarisation, on observait encore une navigation qui était plus lente. Donc, est-ce qu'elle est plus coûteuse? On ne le sait pas vraiment dans leur étude, mais en tout cas, elle est plus lente. Nous, dans une étude pilote qu'on est en train de mener, là maintenant, on demande aux personnes âgées de naviguer après une phase de familiarisation qui a été progressive et sans erreur, et tout en réalisant une tâche de répétition de chiffres très simple. Et malheureusement, on remarque pour l'instant, mais on est vraiment dans les résultats préliminaires, que la performance est plus impactée chez les personnes âgées que chez les personnes les plus jeunes, et ça semble être corrélé avec l'aisance par rapport à la technologie. Mais là, il faudra plus de données pour le confirmer. Alors, la réalité virtuelle, créer des expériences pour pouvoir tester après la mémoire épisodique, là, je pense que clairement, oui, il y a toute une série d'études qui le montrent, qui montrent son intérêt. Le réalisme ne semble pas tout à fait important, mais par contre, la quantité de détails présents dans l'environnement et pouvant être après rappelés par les personnes semble indispensable, détails visuels, son, et moi j'aurais tendance à rappeler détails également personnels que la personne aurait pu projeter dans l'environnement. C'est indispensable étant donné cette interaction de la mémoire avec l'identité. Alors la navigation active, c'est encore un défi. Là, il devra y avoir encore des études qui montrent que effectivement c'est bien valide, que les performances observées pour la mémoire sont bien valides et qu'il n'y a pas un impact trop grand de la navigation active. Voilà. Merci pour votre attention.
Sylvie, on te remercie pour ton intervention. Tu as même fini en avance. Merci. Donc, on va se diriger vers la dernière intervention de la journée. Donc, c'est celle de Marilyn Carion-Martineau et de Nicolas Baltenac. Donc, tu vas nous parler de robots.
Exactement.
De paros.
Voilà, donc tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs et Nicolas se joint à moi pour vous remercier chaleureusement pour l'invitation. Je me présente rapidement, donc je suis Marilyn Carion-Martineau, je suis psychologue du travail. Je réalise actuellement une thèse en ergonomie sur les processus créatifs et le travail collectif en Fab Lab. Donc un petit peu éloigné, pour autant j'ai travaillé 4 ans en recherche sur Paro et je vais partager une petite partie des résultats, résultats qui sont plus des questions que des réponses, parce que j'ai ouvert plein de questions, mais j'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Donc voilà. Pour situer le contexte, donc c'est une recherche qui a été financée par la Mutualité française de la Loire. C'était une grosse recherche qui impliquait plusieurs laboratoires et pour avoir une vision à la fois socio-ethnographique, clinique. Et psychologique. Et donc moi, je faisais partie du laboratoire P2S, où on avait en charge de voir l'impact du robot sur la vie des patients, sur la relation de soins et sur la relation avec les familles. Donc là, moi, je vais m'attarder particulièrement sur la relation de soins et comment est-ce qu'en fait, le robot, quand on le met dans la relation, il vient changer l'activité du soignant. Donc au niveau du contexte, c'est la Haute Autorité Santé en 2011 qui préconise les thérapies non médicamenteuses pour les maladies de type Alzheimer et apparentées. Et du coup, ça va favoriser l'arrivée des robots dans l'accompagnement, et donc du robot Paro qui arrive en France en 2014, sachant qu'il a été créé en 1995 au Japon. Les études qui avaient été faites jusqu'à présent montraient qu'il y avait une efficacité sur la communication. Elles étaient principalement japonaises et ou effectuées via des tests cognitifs. Et du coup, on souhaitait à la fois donc, s'occuper de la relation de soi, mais vérifier quand même de l'impact sur la communication avec une approche un petit peu plus qualitative, en prenant en compte le vécu des individus dans la situation et en particulier du coup des soignants sur ce qui nous regarde là maintenant. Donc qu'est-ce que Paro ? Donc Paro c'est un petit robot comme on voit là, il a une fourrure, il est doux, il est muni de capteurs, de moteurs, de tout un tas de choses, dit-on une intelligence artificielle, je n'ai pas été vérifiée, il pourrait a priori apprendre des mots, je ne sais pas non plus. Donc les problématiques qu'on s'est vraiment posées, c'est finalement quelle est l'influence du robot sur la relation patient-soignant, en quoi ces interactions vont être modifiées ou pas, et comment le soignant introduit le robot dans sa relation avec le patient. Donc notre recherche, elle avait une visée à la fois épistémologique et à la fois pragmatique, puisque on avait comme mission également de transformer l'activité par notre action. Au niveau des hypothèses, donc, on voulait d'abord vérifier au niveau de la communication verbale s'il y avait un changement sur la communication non verbale et voir un petit peu en termes d'interaction avec le personnel soignant ce qui pouvait se jouer. Pour cela, on a mis une méthodologie un petit peu particulière qui est plus riche que ça, mais je vais insister sur le point qui est un peu plus complexe. Donc on est intervenu dans 3 EHPAD et on a pris 6 couples résidentes soignante, puisque c'était exclusivement des femmes, sachant qu'en fait, on en a pris 12 à la base, mais pour des raisons évidentes de turnover des personnels et de personnes en fin de vie, on avait comme objectif d'atteindre 6 couples en fin d'études qui a duré 3 ans, et nous y sommes arrivés. Donc, chaque couple a été vu 3 fois avec caméra au point. Donc, on a filmé des interactions entre résidents et soignants, dans des situations choisies par le soignant, donc ça pouvait être vernir les ongles, la lecture d'un journal, etc., mais où il n'y avait pas Paro. Et 2 autres situations, chacune à 3 mois d'intervalle, avec Paro, pour voir ce qui allait pouvoir évoluer dans la relation. Il faut savoir que les soignants ne recevaient comme formation qu'une formation technique, la formation du distributeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'allume, classiquement, voilà, à quoi il est censé servir, mais sans plus de précision. Dans le cadre de notre recherche, les soignants avaient reçu comme consigne d'introduire le robot à minima une fois par semaine avec le résident qui faisait partie du protocole. Donc, le résident voyait le paro une fois par semaine et nous, on venait une fois tous les 3 mois. Ces mesures, donc c'était des observations filmées d'interaction face à face, je vous l'ai dit, médiatisées ou non. On a pu les analyser en termes de conversation, en termes d'interaction et en termes de comportement. Et surtout, et c'est là un peu l'originalité de la méthode, en entretien d'autoconfrontation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait réalisé ces vidéos, dans les 48 heures qui suivaient, on les présentait aux soignants et on leur demandait... ce qui se passait sur la vidéo, comment elle se sentait, voilà, ce qui s'était joué à ce moment-là. Donc on voit là, typiquement, la vidéo, c'est une mise en abîme, puisqu'elle se regarde et on la filme encore en train de se regarder, pour avoir vraiment le maximum de données. En termes de résultats, donc, je vais rapidement passer sur les résultats en termes de communication. Donc on s'était occupé de la valeur des interactions. On a fait appel à une méthode des juges, donc on était 9 personnes à juger si les interactions étaient plutôt neutres, positives ou négatives. Il se trouve qu'avec Paro, clairement, les interactions étaient beaucoup plus positives. En effet, les résidents avaient tendance à énormément se plaindre quand il n'y avait pas Paro, mais quand il y avait Paro, il y avait un petit peu un effet de fascination, et du coup, on parlait que du Paro, et c'était « et il est beau, il est mignon, il a des beaux yeux, etc. » J'ai pas oublié de préciser, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la population de personnes âgées, c'est des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentées. Je l'ai dit très rapidement, mais c'est très important parce que on n'a pas pu mener d'entretien derrière, etc., avec ces personnes-là. Au niveau de l'adressage, quand il y a paro, forcément, il y a beaucoup de discussions qui se font autour de paro, donc qui devient l'objet principal de discussion à 60%. Et il y a 18,7% de tours de parole qui sont carrément adressés au robot, où finalement le soignant s'adresse au robot ou le résident s'adresse au robot. Pour les épisodes de confusion, en présence de paro, les résidents montaient deux fois moins d'épisodes de confusion. On a même eu des résultats un peu surprenants avec des personnes qui ne parlaient pas du tout et qui se sont mises à parler pour la première fois lors de la première observation avec paro, donc la première fois qu'on leur amenait le robot. Donc on voit que a priori, il y a une communication verbale qui est améliorée. Pour la communication non verbale, donc on a fait pour les 6 couples une analyse des vidéos, minute par minute, avec qu'est-ce qui s'y passe en termes d'échange de regards, en termes de toucher, etc. Et on peut voir que quand il y a paro, la résidente est beaucoup plus active. Elle applaudit, elle rigole, il y a des échanges de regards beaucoup plus forts, donc dû déjà à la position, parce que forcément, là, en plus, on a un journal, donc il y a un petit biais. Mais à chaque fois, c'était il y avait un médiateur, quoi. Et ce médiateur, donc c'était soit le journal, soit les ongles. Et du coup, on se retrouvait dans une position un peu différente. Donc c'est un petit biais que je place ici. Mais le fait est qu'il y avait quand même une très forte différence dans les personnes qu'on a pu observer. Donc, pour les personnes qu'on a observées, il y a une communication non verbale, qui est améliorée. Du coup, on a regardé un peu les stratégies d'interaction et on s'est rendu compte qu'en fait, une des grandes stratégies des soignantes, c'était finalement d'orienter les discussions. Elle orientait les discussions dans plusieurs cas. Quand elle voyait de la tristesse, là, j'essaie de faire diversion puisque je vois qu'elle commence à avoir les larmes aux yeux. Orienter les discussions quand il y avait un silence, parce qu'après, je pense que le silence, il peut s'installer plein de choses derrière et je n'aime pas, ça peut être négatif. Quand il y avait de la confusion, là, elle était en train de me parler de sa maman, alors qu'on sait très bien que voilà, sa maman n'est plus là. Je vais essayer de la ramener dans la réalité des choses. Ou quand il y avait de l'incompréhension des personnes qui articulent mal. Tu vois, des fois, j'essaie de comprendre ce qu'elle me dit. Donc, et après, tu vois, j'y arrive pas. Enfin, même si je lui demande plusieurs fois, et du coup, je pars sur autre chose. Donc, on pouvait imaginer, au vu des résultats précédents avec les interactions qui étaient largement dirigées sur paro et à propos de paro, qu'on allait se retrouver avec une facilité de l'activité de soignant dans l'accompagnement, puisque finalement, pour leur stratégie qui semblait la stratégie principale, enfin qui est la stratégie principale en tout cas des soignants qu'on a observés, on allait recentrer sur le robot paro, et c'est ce qui se passait, et que du coup c'était plutôt une ressource. Et donc là, normalement, j'ai une petite vidéo, mais on va tester. Et donc, cette vidéo a pour objectif de montrer, en fait, que vraiment, dans la discussion, le robot devient l'excuse. En tout cas, c'est par lui qu'on essaye de stimuler. J'ai fait une bêtise. Pourquoi j'ai fait fin du diaporama ? Je retente.
Oh là là, que t'as bien pris. Oh, puis ferme les yeux.
Il est beau, hein. Regardez.
Il n'avait pas vu encore ce mémé. Mais il dort.
Non, il attend les caresses.
Ah bon?
Vous pouvez caresser? Ah bah oui. C'est ce qu'il attend.
Donc vraiment, c'est les caractéristiques physiques du robot et ses capacités d'interaction qui sont sollicitées pour l'accompagnement. Donc il bouge, il est doux, il a des grands yeux, regardez, il vous regarde.
Oh,
Regardez-le. Regardez ses petits yeux. Regardez la Thérèse. Là. Ah, il ferme ses yeux. Il bouge ses yeux. Il dort. Il s'endort. Il est bien dans vos bras. Il vous fait un câlin.
Oui, mais ça, c'est souvent.
C'est souvent. Et avec tu, hein.
Donc. Ouh, magie. Donc du coup, on était arrivé à ce moment-là de l'analyse des données en se disant finalement, c'est vraiment une ressource et c'est plutôt chouette. Pourtant, quand on interroge les soignantes se décrivent comme moins spontanées en présence du robot. Alors que nous, on se disait, bah, c'est super, elles n'ont même pas besoin de réfléchir finalement, hop, elles redirigent sur le robot et ça marche tout seul. Et elle déclare même se préférer se mettre en retrait. Donc il y a quelqu'un qui me dit le meilleur c'est de rester en retrait en fait je trouve. Et là on se dit bah, malgré une communication qui est améliorée pour les résidentes et qui est observée par les soignantes se sentent complètement inutiles dans l'interaction en présence du robot et il y a une perte de sens dans leur activité qui les pousse à se mettre en retrait. Et elles choisissent même et elles me confient en dehors de la caméra bien évidemment. Quand il n'y a pas la caméra, elles posent le robot et puis elles s'en vont et elles vont faire autre chose. Donc à ce moment-là, on se dit ben, peut-être que finalement, il faut du temps pour s'approprier l'objet parce que c'est un objet qui est nouveau pour elles, elles n'ont pas eu particulièrement de formation. On va voir ce qui se passe 3 mois plus tard. Mais du coup, 3 mois plus tard, c'est pire. Puisque il y a carrément de la concurrence entre les soignants et le robot. Quelqu'un me dit, c'est mon ennemi en fait, c'est mon concurrent. Elle le regarde tellement en souriant que j'ai l'impression que sa relation avec Paro est plus importante que la relation que nous on a ensemble. Et du coup, il y a vraiment une confusion entre le ressenti positif qu'elles peuvent avoir pour le robot, le plaisir qu'elles constatent pour la résidente et leur sentiment d'inutilité. Donc, il y en a une qui me dit « Moi, je suis attendrie quand il me regarde avec ses yeux. » Donc, elle ressent quelque chose pour cet objet. « J'aime bien la voir comme ça avec lui. Tu sens qu'elle apprécie. » Donc, vraiment, elle constate que pour la résidente, il y a quelque chose qui se passe. Mais je ne sers pas à grand-chose, en fait. Donc là, ça vient quand même parler de la perte de sens au travail. Et c'est quelque chose d'assez important. Mais on a laissé faire et on a attendu de voir 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, on a été assez satisfait de voir que finalement les soignants ont mobilisé des ressources internes qui leur permettaient de s'approprier le robot, d'en faire quelque chose parce qu'elles avaient observé qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait pour le résident. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'en fait, elles l'ont plus centré. Elles l'ont simplement utilisé comme un outil de médiation, comme il devait être. Et du coup, c'était beaucoup plus facile parce que le robot était à côté et n'était plus le centre de l'attention. Et la deuxième chose, c'est que utiliser Paro, ce serait rentrer dans une sorte de jeu. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. La première chose, c'est accepter de laisser l'activité de circonstance parce que dans les enjeux de perte de sens, il y avait le fait des rôles dont on a aussi parlé dans la journée. Le fait que le soignant a comme rôle de prendre soin du résident et qu'il y avait un renversement qui se faisait où le résident prenait soin du robot et qui mettait vraiment en instabilité les soignants. Et il y a une soignante qui dit « Je suis rentrée dans son monde à elle. Voilà, j'ai oublié mon rôle à moi d'être aide-soignante, de s'occuper des soins. J'ai carrément laissé mon côté, mon deuxième côté. Donc je suis rentrée dans son côté à elle, dans son monde à elle, en disant « Oui, il faut jouer le jeu. Voilà, c'est Paro. » Et donc, à ce moment-là, elle a accepté de ne plus être la soignante, mais d'être dans un jeu de simulation, comme on pourrait être dans un autre jeu. Donc, l'idée, ce serait d'accepter la simulation et le faire comme si. Le problème, c'est qu'on a quand même des freins sur cette partie-là de simulation, parce que j'ai l'impression de ne pas être honnête, en fait, avec elle. Parce que ce n'est pas un humain, en fait. Je parle avec une peluche, donc je me sens ridicule, sous-entendu. Et on a un petit peu le fait un peu inverse. Je suis déçue parce qu'il mérite d'être pris. Comment je pourrais dire ? Après, c'est délicat parce que, ouais, pris pour quelqu'un de réel et d'humain, non, mais pas un robot non plus. Soignant, hein, qui dit ça. Je pense que moi-même, je ne sais pas quelle place lui donner. Donc, clairement, il y a un souci de place par rapport à ce robot qui vient mobiliser chez les personnes quelque chose entre le vivant, le non-vivant, on ne sait pas trop. Il y a une dame qui m'a dit, une personne âgée, mais qui n'était pas atteinte de troubles cognitifs, qui m'a dit « c'est pas un être réel, mais ça n'empêche pas de l'aimer ». Et je suis restée là-dessus avec plein de questions. Et du coup, en discussion, eh ben, au lieu d'apporter des résultats nouveaux et révolutionnaires, je pose des questions vraiment sur la place de l'accompagnement dans l'activité des soignants. Parce que dans l'organisation des EHPAD que j'ai pu rencontrer, j'ai des soignants en souffrance, en extrême souffrance, parce que si elles décident de prendre 10 minutes pour s'occuper d'une personne âgée, avec paro d'ailleurs, elles se retrouvent exclues de l'équipe, elles se retrouvent jugées, parce qu'elles n'ont pas conscience que quand elles utilisent paro, ben, ce qui est important, c'est elles et pas le robot, que le robot n'est qu'un outil comme un autre. Qui certes a des résultats et encore toute mesure gardée, puisque on sait que ça marche pas sur tout le monde, que c'est pas universel, que c'est personnel dépendant, résident dépendant et finalement temporalité dépendant, puisque ça peut très bien aller avec une personne un jour et puis pas du tout le lendemain. Et ça vient aussi travailler la question de l'infantilisation avec les soignants, qui est aussi une question qui serait intéressante à aborder, parce que on sent que le robot peluche, ça vient travailler cette question-là, et que j'ai l'impression qu'en tout cas les équipes de soins que j'ai rencontrées n'étaient pas du tout au clair avec ça, avec des actions et des activités qui sont cachées aux familles, qui sont cachées aux directions, parce qu'elles sentent bien que telle personne a besoin, par exemple, d'un poupon et que c'est pas accepté. Alors c'est de plus en plus accepté, les poupons. Il y a des EHPAD qui l'utilisent ouvertement, mais il y a plein d'EHPAD qui l'utilisent de manière cachée. Donc ces deux versants, je pense qu'il serait important de venir retravailler, et je pense dans la formation même des métiers du soin. Et pas juste une formation, bah, on a mis paro et on va faire une petite formation paro, mais vraiment plutôt au départ. Merci pour votre attention.
Marine, je te remercie pour cette intervention, parce que ça vient évidemment faire écho à mes recherches et va dans le même sens, donc je suis rassurée. Je ne produis pas des bullshit news, pour citer Dominique Cardon, donc c'est bien. Donc oui, c'est extrêmement intéressant. Donc j'espère que les questions vont être nombreuses.
Oui.
Donc Serge.
Oui, un grand merci pour votre présentation sur Paro. Alors dans la discussion, je pense quand même de plus en plus qu'il faudrait que les paros soient introduits comme des outils ludiques, des outils de jeu. On va jouer ensemble. Et sitôt qu'on introduit le paro comme un instrument thérapeutique, je pense que c'est là qu'on entre dans les écueils que vous avez évoqués. Alors toute la difficulté, évidemment, à partir de là, c'est de faire accepter que les patients et les soignants puissent jouer ensemble et que ça puisse avoir un impact thérapeutique. Ça, c'est notre paire de manches. Mais peut-être que justement, insister sur cet aspect-là du paro, ça permettrait d'enfoncer un coin dans la logique des institutions et de faire comprendre que ben, le jeu est thérapeutique et que lorsqu'un soignant joue avec un patient en utilisant éventuellement un paro, eh ben, c'est bon pour le patient et c'est bon pour le soignant aussi et c'est bon pour la relation entre les deux. Voilà. Sinon, j'ai une question pour Marie-Belle Pinault, parce que pour être un adepte des jeux vidéo, je suis toujours frappé du fait que dans les jeux vidéo, les outils les plus lourds ne pèsent rien. Et dès qu'on est affronté à la réalité, on en prend un coup, parce qu'on s'aperçoit que tout pèse dans la réalité et que soulever un livre, et ça va, mais en soulever 10 l'un après l'autre pour les mecs dans un sac poubelle, et ben, c'est dur. Donc est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là dans le passage du virtuel au débarras réel ?
Non, pour l'instant, on n'a pas été confronté. Mais je pense que c'est par nos utilisateurs c'est tellement nouveau la découverte de cet outil, de ce système, de la manette, de la pince, que ça ne nous a jamais été rapporté.
Et lorsqu'ils rentrent chez eux pour débarrasser, commencent à débarrasser pour de vrai, est-ce qu'ils sont accompagnés par un soignant ? Ou est-ce qu'ils rentrent chez eux et puis ils reviennent une semaine après en disant voilà, j'ai commencé à débarrasser.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, d'accord, ça a été comme ça, mais justement, c'est cette modalité, ce type de modalité, c'est ce qu'on est en train de définir. Est-ce d'accord que c'est possible de les accompagner? Mais d'accord, quand on a commencé à faire les photos chez les personnes pour modéliser à partir des photos, c'est, on n'a pas eu beaucoup de succès avec que les gens acceptent que l'équipe vienne.
D'accord, d'accord. Donc, mais donc, ils commencent à débarrasser pour de vrai, puis ils font des photos de chez eux, puis vous les amènent.
Oui,
d'accord. Et personne n'a dit, oh là là, c'est lourd, c'est fatigant. Vous n'avez pas eu de remarques comme ça? Ils n'ont pas demandé d'aide?
Non, pour l'instant.
D'accord, d'accord. Non. Merci.
Oui, alors ça serait pour revenir sur le paro aussi. Merci à tous les trois hein, quand même pour votre intervention. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que moi je remarque qu'à chaque fois qu'on discute entre chercheurs qui bossons sur la question des robots, que ce soit dans l'autisme ou auprès des personnes âgées, généralement, on est quand même beaucoup à avoir beaucoup interagi avec le robot avant de l'utiliser. Et c'est très intéressant du coup de s'intéresser un peu à des aides-soignantes qui finalement ont été, enfin c'est même pas une formation comme vous l'avez dit, c'est on les a juste présentées en fait rapidement. Et en plus sur trois séances, donc
trois heures.
Oui, voilà, donc c'est pas grand chose. Et du coup moi la question que je me pose c'est est-ce que, parce que je connais pas le paro, j'ai jamais interagi avec, est-ce qu'il y a un moyen d'entrer un petit peu dans le code du paro? Parce que moi, ce que j'ai remarqué avec le NAO, à toutes les personnes à qui je le présentais, c'est qu'à partir du moment où on est capable, pas seulement d'interagir avec lui, mais d'en faire quelque chose, donc de le contrôler, de le gérer, à ce moment-là, on remarque que le thérapeute devient beaucoup plus à l'aise en se rendant compte beaucoup plus facilement que c'est une machine. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et aussi, autre petite question, plus sur la question de l'éthique. Comment est-ce que vous présentez le paro aux personnes âgées? Parce que il est doux, il est mignon, mais est-ce que, alors c'est un robot, attention, on l'a allumé devant vous, attention, il a bientôt plus de batterie, ou des choses comme ça, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a un doute qui plane un petit peu aussi pour les personnes âgées? Parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte, de redonner cette place d'objet qui bouge en fait, mais d'objet quand même aux patients du coup.
Alors, première question. Oui, on peut intervenir, on peut baisser le son.
Ouais, c'est tout.
Voilà. Fin de la discussion. Ensuite...
on peut l'éteindre et l'allumer.
Oui, l'éteindre et l'allumer, effectivement. Il y a trois boutons. Un bouton qui éteint allume, un bouton qui augmente le son et un bouton qui baisse le son.
Alors, on va presque penser à une charte éthique des soignants avec des robots qu'on puisse
mais
modifier.
C'est intéressant, je peux revenir, parce que NAO, c'est une production française qui a été rachetée par une compagnie, mais... Paro, c'est une production japonaise. Donc peut-être aussi que dans la conception, ils n'ont pas le même point de vue. Toi, dans la conception française, peut-être plus d'ouverture, on peut intégrer, on peut... Non ? Alors c'est peut-être une piste, hein. C'est peut-être une bonne question. Moi, je...
Non, les objectifs de Paro étaient complètement différents. En fait.
Ouais.
À la limite, on pourrait presque le considérer... c'était limite pas un robot. Quoi.
C'est limite pas un robot, en fait. Et ça a été fait exprès de faire un phoque, hein, vraiment, parce que personne sait... Tout le monde sait ce que c'est qu'un phoque, mais personne n'en a vu, en réalité. C'est ça, l'idée. Du coup, personne ne connaît et est capable de dire quel est le bon comportement d'un phoque. Mais pourtant, on sait tous ce que c'est. Moi, j'ai bien aimé la présentation. C'est surtout sur le... En fait, vous n'avez pas parlé de résultats. Je pense qu'il y a quand même des résultats qui sont importants. C'est plus sur le... Sur le fait du retrait, en fait. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est plus l'écosystème qu'il faut penser directement, plus que le robot. Ça pourrait être le NAO, ça pourrait être même le meilleur robot du monde. Nous, c'est montré, mais de manière systématique, c'est pas le robot qui fait... et dans la science de l'éducation, c'est vrai, c'est l'activité qui fait, c'est pas...
Du coup, juste pour répondre peut-être à la deuxième question qui concernait... Je viens de la perdre, je l'avais il y a deux secondes. Oui, pour la présentation, etc. Nous, dans la recherche, on a fait le choix. Et moi, c'était volontaire parce que j'avais déjà travaillé l'année d'avant spontanément sur le robot paro et que j'avais vu que c'était une problématique. J'ai voulu voir ce qui se passait naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il est mis dans un EHPAD, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas envie d'intervenir et de faire des préconisations. Donc, selon les personnes, il y a des personnes qui l'ont présenté sans rien dire, en disant c'est paro, voilà. Des personnes qui insistent toutes les deux secondes, alors le robot, etc. Ah ben là, il va bientôt avoir plus de batterie, on va aller le charger, etc. Ça dépend vraiment des soignants. Et du coup, dans le protocole, nous, on ne l'a pas du tout pris en compte, dans le sens où ça n'a pas modifié, en fait, les résultats qu'on avait. peu importe comment il était présenté. Pour autant, je pense que tout à un moment donné précise que c'est un robot. Toutes viennent quand il est allumé. Et voilà. Donc on n'a pas, mais c'est quelque chose qui aurait été intéressant de continuer d'explorer parce que, enfin, souvent Serge Tisseron il en parle de la préconisation d'arriver qu'il soit allumé, que la personne prenne vraiment conscience qu'elle est face à un objet. Et c'est vrai que le paro a cette particularité qu'il est fait pour émettre le doute, clairement. Et voilà. Donc c'est à continuer d'explorer.
Moi, ma question concernait justement le paro aussi. Est-ce que vous pensez, si on laisse de côté l'aspect hygiénique, qu'il y a un intérêt fort par rapport à la zoothérapie ?
Je ne vais pas pouvoir répondre de manière scientifique puisque je n'ai pas fait de comparaison. Les études montrent qu'il y a des effets qui sont comparables. Moi, je pense que ce n'est juste pas du tout la même activité. Moi, je le comparerais, mais alors pas du tout. On est dans de la simulation, on est dans du jeu. L'animal, il a ses propres états d'âme. Il va vouloir venir, il ne va pas vouloir venir. Il va faire des choix. Paro, il n'a pas le choix. On le met sur la table, on ne lui demande pas son avis. Enfin, et encore heureux. T'es content, Paro, d'être là ? Enfin, voilà. Donc, pour moi, ça n'engage que moi. Je ne comparerais pas Paro à un animal en termes de thérapie.
Et c'est ce qu'on disait ce matin, hein, Paro, il ne remplace pas, il va compléter quelque chose. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai observé dans l'hôpital où j'ai observé Paro, ils avaient utilisé Paro, il n'y avait pas d'animaux. Et suite à l'usage de Paro, après, ils ont utilisé la zoothérapie. Vous voyez, il y a de la complémentarité.
Oui, je voulais juste revenir sur les conditions, en fait, d'introduction d'une nouvelle technologie. Parce qu'en effet, ça vient d'être un petit peu dit, mais il faudrait pouvoir comparer deux types de conduite de changement dans l'introduction d'une nouvelle technologie. Une conduite de changement sans pré-appropriation avant, c'est ce que vous venez de décrire, ou une appropriation qui n'en est pas une, en fait. Et une conduite de changement avec une période d'appropriation par les acteurs eux-mêmes de l'introduction d'une nouvelle technologie pour constituer ces acteurs en un acteur collectif autour du protocole de soins, c'est-à-dire y avoir une approche systémique. Je vous dis ça parce que il y a des années, le service national des messageries à la SNCF était passé du traitement manuel des colis à un traitement automatisé avec un code-barre des colis. Et quand j'avais interviewé des gens, il n'y a eu aucune conduite du changement. Et une personne m'avait dit: désormais, je me sens comme une vieille pantoufle crevée. Et ça m'a fait penser à ça, votre histoire. C'est-à-dire, si on ne crée pas les conditions de constitution de nouvelles représentations de mes pratiques dans l'introduction d'une nouvelle technologie, je peux me sentir complètement marginalisé au bout d'un moment. Donc voilà, je pense qu'il faudrait faire cette étude pour mesurer l'incidence d'une vraie conduite de changement préalable à l'introduction d'une nouvelle technologie.
Bah, clairement, je serais très intéressée de le faire, s'il y a des financeurs, quelque part. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, et c'est les conclusions de l'étude, en fait. C'est qu'on a étudié quelque chose dans son état naturel volontairement, mais aussi un peu avec provocation, pour dire, mais... c'est bien beau de mettre de la nouvelle technologie de partout pour dire d'en mettre, mais si c'est pas construit, si c'est pas accompagné, etc., bah voilà quoi. On constate. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ?